VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Chris Burundes, le représentant spécial des États-Unis pour les crimes de guerre, estime que les responsables des violences en cours au Burundi pourraient faire face à des poursuites judiciaires. Bagassi Kora.
Dans une interview hier avec le service d'Afrique centrale de la VOA, Stephen Rapp a déclaré que les manifestants pacifiques continuent d'être pris pour cible par balle dans les rues de la capitale Bujumbura. Il a affirmé que les États-Unis sont particulièrement préoccupés par les violences commises par les Imbonerakure, la milice de la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Selon M. Rapp, ceux qui sont impliqués dans ces violences et autres tueries au Burundi vont probablement finir devant la Cour pénale internationale. L'ambassadeur Rapp, qui a servi comme procureur du tribunal spécial pour la Sierra Leone et comme substitut du procureur au tribunal pénal international pour le Rwanda, a exhorté les acteurs politiques burundais à éviter de jouer la carte ethnique.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition se félicite des remarques du président français François Hollande à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso sur la nécessité de préserver les institutions et de mener des réformes constitutionnelles sur la base du consensus. On écoute l'opposant Pascal Tsati Mabiala, leader de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, à Brazzaville.
Le président de la République, M. Sassou Nguesso, est au terme de son second et dernier mandat. À quelques mois de l'élection présidentielle à laquelle, constitutionnellement, il ne doit pas se présenter, il engage une grande réforme des institutions. Ce qu'il aurait pu faire en 2009, lorsqu'il a été réélu, il avait 7 ans pour le faire. C'est quand même un grand chantier qu'il veut ouvrir à quelques mois. Et c'est pour ça qu'il y a le soupçon de quelque chose derrière cette réforme des institutions qu'il engage. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, ce n'est pas opportun. Maintenant, c'est votre droit constitutionnel, nous vous le concédons. S'il doit avoir une réforme, mais la réforme ne doit pas toucher aux articles que nous appelons ici chez nous les verrous constitutionnels, c'est-à-dire sur le nombre de mandats, notamment.
Pascal Tsati Mabiala, leader de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, joint à Brazzaville par Timothée Donangmaï. Tchad appelle d'Amnesty International aux autorités tchadiennes pour leur demander de libérer immédiatement et sans condition Djiralar Miankeol, un défenseur des droits humains condamné mardi à 2 ans de réclusion. Les explications de la porte-parole de l'Organisation de défense des droits de l'homme basée à Londres, Balkissa Idé Sido.
Le 7 juillet, il a été arrêté sans mandat par le procureur de la République pour simplement avoir exprimé son opinion sur le système judiciaire au Tchad. Donc Amnesty International demande sa libération immédiate et sans condition, car il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, tout simplement parce qu'il a exprimé pacifiquement son opinion. Et donc nous le considérons comme un prisonnier d'opinion. Il a donné son opinion sur des actes présumés d'accaparement de terres ou de corruption. Et cela ne doit pas être considéré comme une infraction. Il n'aurait jamais dû être arrêté ni inculpé.
Balkissa Idé Sido, porte-parole d'Amnesty International, jointe à Dakar par Camille Gros-Didier. Conflit au Soudan du Sud, vive critique de la conseillère présidentielle américaine pour la sécurité nationale, Susan Rice, contre les belligérants sud-soudanais à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Dans un communiqué aujourd'hui, Mme Rice accuse le président Salva Kiir et son rival, l'ex-vice-président entré en rébellion, Riek Machar, d'être directement responsable de la guerre civile. Elle ajoute que Washington continue de soutenir les efforts des partenaires régionaux du Soudan du Sud qui cherchent à mettre fin au conflit. Maintenant, l'actualité économique en Afrique centrale avec Claire Morin-Gibourg.
Boko Haram perturbe le commerce entre le Cameroun et le Tchad. La recrudescence des attaques suicides de la secte islamiste nigériane met à mal les échanges économiques et commerciaux entre le Tchad et le Cameroun. Après avoir, dans un premier temps, procédé à la fermeture des frontières, les deux pays ont décidé de les rouvrir, mais en accentuant les contrôles aux postes frontaliers. Une nouvelle cimenterie au Cameroun. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a annoncé la construction imminente de sa seconde cimenterie dans la capitale camerounaise Yaoundé, d'une capacité de production de 1,5 million de tonnes annuelles, à l'instar de l'unité qu'il vient d'ouvrir dans la métropole économique Douala. Cette future cimenterie sera construite par la société chinoise Sinoma pour un coût de 88,7 milliards de francs CFA.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, le gouvernement prêt à entrer en pourparlers avec le groupe islamiste Boko Haram. Une offre faite malgré la promesse du président Muhammadu Buhari de ne pas négocier avec des terroristes. Par ailleurs, les autorités nigérianes disent avoir arrêté le suspect qui aurait planifié les attentats à la bombe, responsable de la mort de plus de 70 personnes dans les localités de Jos et de Zaria cette semaine. L'enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry en Guinée continue. L'ex-chef de la jeune guinéenne à l'époque, Moussa Dadis Camara, a été inculpé hier soir. Claire Morin-Gibault.
L'inculpation du capitaine Moussa Dadis Camara a été confirmée par un de ses avocats, Jean-Baptiste Jokame Abba, à l'AFP. L'interrogatoire a été conduit par deux juges d'instruction et un procureur guinéen au palais de justice de Ouagadougou, où vit Dadis Camara en exil depuis 2009. Monsieur Camara a été soupçonné d'être impliqué dans le massacre d'opposants le 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées.
Au Burkina Faso, consultation hier entre le président de la transition, Michel Kafando, et son premier ministre, Yacouba Isaac Zida, alors que des rumeurs font état de tensions entre ces deux leaders dans un pays en crise politique depuis une dizaine de jours. L'armée burkinabé, et en particulier le RSP, le régiment de sécurité présidentiel qui fait le bras armé de l'ex-président Blaise Compaoré, exige le limogeage du lieutenant-colonel Zida, qui est pourtant le commandant adjoint de ce régiment d'élite, Idrissa Seydoudia.
Monsieur Kafando a souhaité échanger avec Monsieur Zida sur les concertations entamées depuis la semaine dernière afin de trouver une solution à la situation nationale, a déclaré à l'AFP un proche du président. La rencontre a été confirmée par un collaborateur d'Isaac Zida qui assure ne pas avoir eu d'informations sur la teneur des discussions. Le premier ministre a démenti lundi avoir démissionné quand des rumeurs affirmaient la veille que le président avait exigé son départ. Il a annoncé mardi devant un millier de sympathisants qu'il tiendrait ferme à son poste à son retour d'un voyage officiel en Côte d'Ivoire. Mais le fait qu'il a quitté précipitamment le Conseil des ministres mercredi a ravivé les rumeurs le concernant. Selon le gouvernement burkinabé, un complot contre M. Zida, fomenté par des membres du RSP, avait été déjoué le 28 juin. Mais des officiers du régiment controversé accusent le chef du gouvernement d'avoir monté un faux complot contre sa personne afin de créer des troubles et de se maintenir au pouvoir. Les chefs militaires burkinabés ont de leur côté demandé vendredi dernier au président Michel Kafando, qui tente de jouer les médiateurs, de former un gouvernement composé de civils pour mettre fin à cette nouvelle crise. Les autorités de transition, mises en place après la chute de Blaise Compaoré, devront rendre les rênes du pays au nouvel exécutif issu de la présidentielle d'octobre.
La crise de la dette grecque maintenant, le premier ministre grec et ses proches collaborateurs mettent la dernière touche à un plan de réforme qu'ils doivent présenter aux partenaires européens au plus tard à minuit ce soir pour essayer de les convaincre de reprendre le financement de la Grèce nécessaire à son maintien dans la zone euro. Les créanciers de la Grèce donneront leur réponse finale à cette demande d'aide financière après le sommet des leaders de l'Union européenne dimanche. Au pourparlers de Vienne sur le nucléaire iranien, les négociateurs de l'Iran et des grandes puissances travaillent d'arrache-pied aujourd'hui pour essayer de conclure un accord à la veille du nouveau délai limite qu'ils se sont fixés. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, dit que les participants sont très proches de parvenir à leur objectif. Le ministre américain de l'énergie, Ernest Moniz, a exprimé l'espoir qu'aujourd'hui serait le dernier jour des négociations. Actualité américaine, en Caroline du Sud, l'État où un jeune blanc raciste a tué 9 noirs dans une église le mois dernier. Adoption par les deux chambres du Parlement local d'une loi ordonnant le retrait du drapeau sudiste confédéré de l'enceinte de ce Parlement. La Chambre des députés sud-caroliniens a approuvé la législation très tôt ce matin, après que le Sénat en ait fait de même mardi. La loi entrera en vigueur dès sa signature par la gouverneure républicaine de l'État, Nikki Haley. Et le drapeau en question, considéré par beaucoup de noirs comme un symbole de l'esclavage et du racisme, devrait être transporté dans un musée. Et pour terminer, la bourse de New York a pris une raclée hier, mais ce qui a retenu surtout l'attention, ce n'est pas le fait que l'indice Dow Jones ait perdu 261 points, mais plutôt les problèmes techniques liés au mauvais fonctionnement des ordinateurs qui ont exaspéré opérateurs et consommateurs à Wall Street pendant presque toute la journée. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et aussi sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.